Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi la ville de Nancy considère que le logiciel libre est un vrai vecteur de transformation du service public en général et des collectivités locales en particulier? Le livre, consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques, est intitulé « Ce qu'il reste de nos rêves ». Quels sont les problèmes de la tentation de la réécriture? Eh bien, nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous y trouvez une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous sommes mardi 14 janvier 2020, nous diffuserons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct ou participer à la discussion, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur « Chat » et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme de l'émission. Donc, nous commencerons par une note de lecture du livre « Ce qu'il reste de nos rêves » de Flore Vasseur, consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques décédé à l'âge de 26 ans le 11 janvier 2013. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la politique logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy, récente récipiendaire d'un label territoire numérique libre de niveau 5. En fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calame sur le thème de la tentation de la réécriture. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Tout de suite, place au premier sujet.
Salut à tous. Alors, à l'occasion de la commémoration de sa mort le 11 janvier 2013, j'ai eu très envie de vous parler d'Aaron Swartz et donc du livre « Ce qui reste de nos rêves » écrit par Flore Vasseur aux éditions de l'Équateur. C'est un livre qui est paru en 2019, donc c'est quand même assez récent. Mais comme je pourrais pas avoir l'auteur avec moi, j'ai demandé à un connaisseur de venir. Salut Manu.
Salut Mag.
Donc Manu, tu es responsable de la revue de presse de l'April.
Et je suis informaticien par ailleurs.
Voilà, et de l'agenda du libre.
Oui, que j'ai codé dans sa version actuelle.
J'en profite, je te fais de la pub.
Ça peut pas faire de mal.
Donc Aaron Swartz, il est né en 1986. Il est mort en 2013, à 27 ans. C'est une vie très courte, mais très très riche.
Il vient d'une famille dont le père était informaticien.
Il a des frères tout aussi intelligents que lui. Il est brillant, c'est un élève surdoué. On va le voir par la suite, il a fait énormément de choses.
Il a commencé à quel âge?
Alors, à 12 ans, il crée The Info Network. Alors, The Info Network, c'est une encyclopédie, c'est une sorte de prémisse de Wikipédia.
Oui, un peu en avance, mais déjà un début. Alors, ça n'a pas pris à l'époque, hein, effectivement, puis il était un peu jeune, hein, ça ne doit pas aider.
Il ne devait peut-être pas aussi avoir les connaissances. Hein. À 12 ans, on n'a pas le réseau que pouvaient avoir les fondateurs de Wikipédia. Mais déjà, il est là pour le partage des connaissances, la libre circulation des informations. À 13 ans, il reçoit un prix. Alors, je vous dirai pas le nom du prix parce que c'est en anglais. Mais en gros, la récompense de ce prix, c'est une visite au MIT.
Donc, un endroit où il y a plein d'informaticiens. On pourrait même dire qu'il y a un nid. Et il va y rencontrer des gens importants pour sa vie plus tard.
Il rencontre Laurence Lessig.
Notamment un grand défenseur du droit d'auteur, du domaine public plus précisément, et qui est un des créateurs des Creative Commons. Quelqu'un d'important.
À 14 ans, il participe au format RSS. C'est quoi le RSS?
Alors, c'est quelque chose d'assez technique qui permet de s'abonner au site web pour avoir leur actualité. C'est très, très utile, mais ça reste assez technique. Donc, quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé à partager de l'information sur Internet à son époque. Ça a fait vraiment fureur.
Et c'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité, même si ça a évolué quoi, d'une certaine manière. Et donc, il y a d'autres choses.
À 15 ans, il s'intéresse aux droits d'auteur et aux licences des Creative Commons.
Donc, justement, créé par Laurence Lessig, un ami à lui.
Un mentor.
Un mentor, oui,
en tout cas, au début, c'était son mentor. Et après, manifestement, les choses se sont inversées. Ça, vous le découvrirez dans les interviews du livre de Flore Vasseur.
Donc, les Creative Commons, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on diffuse des contenus, sur Internet notamment. Et ça touche à peu près tous les contenus qu'on peut imaginer. C'est très, très à la mode, notamment sur Wikipédia aujourd'hui.
À 16 ans, il rentre à l'université de Stanford.
Donc, c'est plutôt jeune, mais c'est bien.
À 17 ans, il devient, ou il commence à devenir très, très actif dans Wikipédia. Forcément, vu que son encyclopédie n'a pas marché, autant être actif là où ça marche. Wikipédia, ça marche. À 19 ans, il rejoint les fondateurs de Reddit. C'est
donc
quoi Reddit?
C'est une sorte de site où on partage des liens et où on discute. C'est un nid à trolls, hein. C'est un forum gigantesque.
À trolls.
Il y a plein de trolls sur Reddit.
Des débats.
C'est assez incroyable. Des débats. Il y a plein de débats sur Reddit. Donc c'est un milieu qui est très bougeant. Ça remue dans tous les sens.
Je ne me couche pas tant que quelqu'un attend sur Internet, c'est ça?
Exactement.
Okay.
Ceci dit, il n'y est pas resté non plus.
Non, parce que Reddit, ça a été racheté par Condé Nast et manifestement, la politique a changé, ce qui fait qu'il il s'est barré.
Mais déjà, c'est pas mal. Il a participé quand même à quelque chose d'assez important encore sur Internet.
Alors, à 21 ans, il fait partie des membres du W3C et du RDF.
Alors, le W3C, c'est l'organisme qui gère un peu le web, donc une grosse partie d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est quelque chose de gigantesque, d'important. Et RDF, c'est un des formats qui est utilisé, qui est spécifié par le W3C, qui est en lien avec le RSS, hein, justement. Donc, quelque chose d'assez important, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Ce sont des métadonnées, hein, globalement, et des formats de fichiers.
Toi, heureusement que tu es là. Alors, c'est aussi à cet âge-là qu'il élabore le langage de balisage léger Markdown. Alors ça, je sais.
Ça
je sais parce que je l'utilise. Bref, quand je vais sur mon site internet, j'utilise du Markdown pour dire, attention, ce texte sera en gras, en italique, il faut aller à la ligne, c'est un titre, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire, le Markdown. Et il a trompé là-dedans.
Et donc, c'est un des créateurs. Et ce mécanisme-là, c'est un des mécanismes qui est beaucoup utilisé dans les wikis, dans les outils comme Wikipédia, même si c'est pas toujours la même syntaxe. Il y a eu beaucoup de difficultés à mettre en place des syntaxes communes. Et aujourd'hui, Markdown, c'est l'une des syntaxes les plus utilisées quand on veut écrire à la mode wiki.
La classe.
Donc vraiment quelque chose de très important et assez incroyable parce qu'il y a beaucoup de ces syntaxes qui se sont battues les unes avec les autres.
Alors, il continue, hein, 22 ans, il participe à Tor to Web. C'est un proxy HTTP pour des services cachés de Tor. Alors déjà, il va falloir que tu m'expliques. Proxy, HTTP et Tor.
Alors, on va pas forcément aller dans les détails, mais Tor, c'est un outil pour être anonyme sur Internet, qui est en oignon, c'est-à-dire on passe par plusieurs couches, et grâce à toutes ces couches, au moins 3, c'est ce qui est recommandé, on est supposé être à peu près anonyme, si on fait pas d'erreur par ailleurs. Et donc, les proxys, ce sont des intermédiaires par lesquels on passe. Donc, développer des proxys pour aller sur le web, c'est utile. Je sais pas si c'est la brique en question est encore utilisée aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important qu'il a dû mettre en place pour faciliter la vie et pour rester anonyme sur Internet, donc quelque chose de fondamental.
Alors, il s'investit aussi dans Watchdog en 2008. En gros, c'est de l'open data et qui force plus ou moins les gouvernements à mettre des données en transparence, en libre accès.
Open data, c'est ce qu'on en dit aujourd'hui. C'est effectivement quand les administrations partagent des données, les horaires de train, des données sur les budgets, des choses comme ça, qui sont partagées, qui sont diffusées. C'est très utile pour nous les citoyens, notamment, pour les entreprises et pour les autres administrations aussi. Et donc, oui, il a trompé là-dedans encore.
Incroyable. Mais pas que ça, hein. Il a aussi fait l'open library.
Attends, ça devrait te plaire, puisque tu es libraire.
Je suis libraire, effectivement. L'open library, c'est énormément de libres en libre accès. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu mettre sous la main, il l'a envoyé et on peut y accéder gratuitement, librement.
Récemment, des livres en domaine public.
Et il y en a déjà pas mal. Hein.
Et il y en a beaucoup. Et c'est un effort qui est louable parce que il faut les diffuser, il faut les reprendre. Et il me semble qu'il a fait ça notamment pour essayer de damer le pion à Google, qui eux aussi avaient des projets dans ce sens-là. Mais c'était pas forcément des projets ouverts.
Déjà, en 2008, il se méfiait de Google.
Donc effectivement, il a senti qu'il y avait des acteurs qui étaient trop importants, il fallait pas leur laisser tout faire.
Alors, bien sûr, nous, on le connaît pour autre chose. Enfin, on le connaît.
En tout cas, il a laissé sa dernière affaire, on va dire, son dernier combat.
L'affaire JS Tor.
Alors, en soi, c'était pas la plus connue, mais c'est effectivement de la diffusion de journaux scientifiques.
C'est des diffusions qu'il est allé récupérer sur le site du MIT.
Et qu'il a diffusé ensuite sur Internet. Mais de manière non... En tout cas, on ne lui avait pas donné la permission de le faire. Et donc, c'était considéré un accès illégal et une diffusion illégale.
Il n'y avait rien qui empêchait de le faire. Le MIT était quand même reconnu pour garder ce genre de données ouvertes.
Oui, en interne. Mais le fait qu'il les a diffusées, ça a été à l'encontre de la politique officielle du MIT. Même si le MIT ne s'en est pas plaint officiellement, il y a quelqu'un qui lui est tombé dessus. Un procureur des États-Unis qui l'a mis en accusation pour avoir diffusé et hacké des informations qu'il n'aurait pas dû mettre en partage sur Internet.
C'est un procureur des États-Unis, Carmen Ortiz, qui va porter plainte ou va se gérer une affaire, sachant que le JS Tor n'a pas porté plainte et va menacer Aaron de 35 ans d'emprisonnement et je crois de 1 million de dollars, enfin quelque chose mais totalement loufoque comme somme.
C'était de la démesure et effectivement, certains considèrent que c'était devenu une forme d'acharnement judiciaire. Elle voulait faire un exemple vraisemblablement d'Aaron Swartz qui était déjà très connu à cette époque et donc le mettre en face de ses responsabilités, on va dire, l'accuser et lui faire plier l'échine, ça aurait été un succès, on peut imaginer, pour cette procureure.
Il faut savoir qu'Aaron Swartz avait des problèmes de santé, que ce soit des santé alimentaires, mais aussi un peu psychiques, et que il s'est pendu. Il s'est pendu dans le costume qu'il avait acheté pour aller au tribunal, et donc il n'y a pas eu de jugement.
Il a mis court à cette affaire, mais effectivement, c'est sa vie qu'il a mis en jeu. Donc c'est un peu dommage. On ne sait pas dans quelle mesure c'était l'affaire qui l'a poussé à cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est considéré un petit peu...
Comme un martyr ? Allez, un martyr du libre. En tout cas, une figure incontournable du mouvement du logiciel libre, des droits d'auteur et de tout ce qui est licence et open source.
Donc c'est un combattant du partage d'informations scientifiques, de la collaboration, de la mise en commun et des formats qui vont sous-tendre à ces mises en commun. Donc c'est quelqu'un d'important parce que il a marqué son époque. Il y a des pétitions qui ont circulé en sa mémoire contre la procureure notamment. Laurence Lessig continue à parler de lui assez régulièrement. Donc c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, a contribué de manière marquante à la vie d'Internet.
Il a marqué les esprits. Il y a plein de choses qui sont dites sur lui, même après sa mort. D'ailleurs, on fête sa mort.
Et on écrit des livres.
Et on écrit des livres.
Sur sa courte vie.
Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, donc dans cette biographie, puisque c'est une biographie, c'est qu'elle est écrite comme un roman. Pour ceux qui sont pas trop biographiques, qui préfèrent les romans, n'hésitez pas à aller la lire parce que on suit vraiment toute son histoire et il y a le témoignage de sa famille, il y a le témoignage de ses amis, de ses proches. Il y a aussi le témoignage de ses mentors puisque, Laurence Lessig y participe énormément. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à lui que cette biographie existe. C'est bien ficelé, il y a plein de références à l'actualité, donc on n'est pas perdu. Je trouve que c'est une manière très intelligente de nous prévenir et de nous sensibiliser aux dérives des GAFAM. Mais aussi des gouvernements, puisque là, en l'occurrence, c'est le gouvernement qui s'est pris en pleine face notre Aaron Swartz. Il se sentait innocent et malgré tout, les jugements, la pression, la prison, puisqu'il a été arrêté, ça l'a mis dans un état qui l'a conduit au suicide.
Donc c'est une vie marquante, courte. J'espère qu'on continuera à parler de lui régulièrement. Il n'y a pas de raison qu'on l'oublie. En tant que martyr des libertés, c'est toujours important de parler de lui.
Je pense que tant que Laurence Lessig sera vivant, on parlera de lui. Parce qu'il a vraiment été marqué par ce gamin qui, finalement, a réfléchi et lui donnait des pistes de réflexion auxquelles il ne s'attendait pas forcément. Avant de conclure, je voudrais un petit peu parler de Flore Vasseur. Parce que Flore Vasseur, c'est une Française.
Donc l'autrice de la biographie.
De la biographie. Elle est partie s'installer en 1999 à New York. Elle travaillait dans une entreprise de luxe. Elle a monté sa propre société de marketing. Et puis là, paf, attentat du 11 septembre 2001. Donc, elle doit pas être très loin des tours. On sent que ça la marque. Et elle va totalement changer de vie. C'est en sorte de déclic, cet attentat. Et elle change tout. Elle devient journaliste, chroniqueuse. Elle quitte New York. Elle revient en France. Et puis, elle va commencer à faire des chroniques. Alors, sur France Culture, sur Le Monde, sur Le Figaro, sur le Journal du Dimanche. Elle fait des articles sur pas mal de gens. Elle s'intéresse énormément aux lanceurs d'alerte. Elle est connue quand elle a fait un documentaire, c'était en 2016, sur la rencontre entre Laurence Lessig, Snowden et Brigitta Jones-Dottir.
Qui ça ?
Brigitta Jones-Dottir.
C'est pas facile.
Je suis pas sûre de le prononcer correctement en plus. Brigitta, c'est une femme islandaise qui a fondé le Parti Pirate. Donc ça date en 2010, elle fonde le Parti Pirate. Elle était très proche de Julian Assange, de Wikileaks. Bon, elle s'en est un peu éloignée après. Elle prône les droits d'auteur, le partage de la connaissance, la liberté sur Internet. Bref, c'est une femme bien. Et donc elle a fait un documentaire sur la rencontre de ces trois personnes-là, qui est fabuleux. Je vous conseille à aller voir ce documentaire et même à aller lire d'autres livres de Flore Vasseur parce que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui partage et c'est intéressant de lui consacrer quelques temps.
A priori, elle défend des droits d'auteur logiques et bien délimités et pas des droits d'auteur un peu fous qui seraient défendus notamment par des procureurs qui ont envie de marquer le coup et d'obtenir une cible, d'obtenir une cible un peu forte.
Je propose qu'on s'arrête là. Merci Manu d'avoir joué les experts avec moi et merci à tous de nous avoir écoutés. Bye bye!
Donc nous avons écouté Magali Garnero et Emmanuel Charpentier, bénévoles à l'April, qui donc ont enregistré une note de lecture du livre « Ce qu'il reste de nos rêves » de Flore Vasseur, consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques. Donc c'est aux éditions des Équateurs, le livre a été publié en janvier 2019, il fait à peu près 400 pages et je vous encourage à le lire. Et comme le dit Magali, c'est un livre qui, au-delà de raconter une personne raconte, est un livre sur une famille. Et dans les pages consacrées à l'émission sur april.org et causecommune.fm, j'ai également mis un lien vers une vidéo de Flore Vasseur d'une dizaine de minutes, une interview vidéo publiée l'an dernier. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter La Petite Britney par le groupe 6 février 1985. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1.
Complaisantes, charmées à verser, mais qu'elles sont amusantes quand il faut dialoguer. À 10 ans, elles se lèvent, se barbouillent de rouge à lèvres, sans lâcher le mascara qui fait hurler papa. Mais elle veut être femme,
être femme, être femme.
Alors évidemment,
évidemment, évidemment,
la pub la condamne à jouer comme les grands. C'est troqué contre un garçon du quartier qui peut te casser les dents si tu parles son amante. Il a trafiqué son scooter qui fait hurler terreur papa qui voit partir sa petite fille de souvenir. Mais elle veut être femme,
être femme, être femme.
Alors évidemment,
évidemment, évidemment,
la télé la condamne à fumer comme les grands. Avec sa poitrine gonflée, claque les talons sur les allées, remballée contre opacité. Elle porte pas d'intérêt aux autres, vu que c'était pas dans l'horoscope. L'amour a maintenant un prix, c'est Sergio Tacchini. Mais elle veut être femme,
être femme, être femme.
Alors évidemment,
évidemment, évidemment,
les marques la condamnent à claquer son argent. Sur ta vie, demoiselle, dont l'amour doit se parfumer en Chanel ou en gel. As-tu peur de ton odeur? As-tu peur de ta figure pour cacher les erreurs que la vie nous procure? Même en restant
une femme, une femme,
n'oublie pas évidemment,
n'oublie pas évidemment,
qu'il est bien plus prudent de ne pas faire comme les grands.
Nous venons d'écouter La Petite Britney par le groupe 6 février 1985, une musique disponible sous licence Art Libre. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Nancy concernant le logiciel libre et les données publiques avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique. Et je vais passer la parole à mon collègue donc Étienne Gonu qui va animer cette discussion. Étienne, c'est à toi.
Merci Fred. Donc effectivement, cette rentrée 2020, nous avons décidé de consacrer deux sujets longs, donc aujourd'hui puis la semaine prochaine, le 21 janvier, aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre et puis plus largement voilà, pour les libertés informatiques. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique. Donc, vous êtes bien avec moi, Olivier ?
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Effectivement, l'engagement de Nancy pour le logiciel libre, politiquement et concrètement, n'est plus à démontrer. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a ce plaisir à vous recevoir. Déjà, moi, je pense qu'on peut citer, alors, par acte de transparence, mais également quand même pour, je trouve que c'est significatif, que ça montre l'engagement de Nancy. C'est-à-dire que le maire de Nancy, Laurent Hénard, est signataire en 2010 au moment des régionales, puis en 2014 au moment des municipales, du pacte logiciel libre de l'April, et par lequel on appelle les personnes encore candidates à l'époque, lors des élections, à s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Donc on a plaisir à voir finalement que monsieur Hénard, dans ses mandats, finalement respecte et s'engage concrètement sur ce pacte. Et puis Frédéric l'a mentionné en introduction de l'émission, vous avez récemment été récompensé d'un label territoire numérique libre de niveau 5, le niveau maximum, et vous êtes en plus la première collectivité à obtenir ce niveau 5. Alors pour mettre, pour préciser, voilà, le label territoire numérique libre donc a été créé en 2016 à l'initiative de l'ADULACT, qui est donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, label dont l'April est membre du jury. Et c'est un label qui est destiné, voilà, à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres, systèmes d'exploitation libre au sein des collectivités territoriales françaises, ainsi que l'usage des données publiques ouvertes, accessibles et réutilisables, ce qu'on appelle souvent open data. Et donc voilà, vous avez donc eu le niveau maximal, donc félicitations à nouveau. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez justement présenter les motivations de cet engagement? Pourquoi est-ce que Nancy œuvre pour les CIB? Finalement, pourquoi est-ce qu'elle a obtenu, selon vous, ce niveau 5?
Alors déjà, c'est un honneur, hein. C'était notre deuxième participation. L'année dernière, nous avions obtenu le niveau 4, et c'est vrai qu'on aura peut-être occasion d'y revenir, mais ces labels pour conduire une politique publique, ils sont capitaux, hein, puisque c'est important de pouvoir s'évaluer. Et c'est pas tant le label qui était important, même si c'est facile à dire quand on a le niveau 5, mais c'était surtout les recommandations pour progresser qui étaient importantes. Comme vous l'avez bien précisé, Étienne, c'est vrai que Monsieur le maire était signataire de la charte de l'April, ce qui a permis dès son élection dans le projet de ville de voir apparaître le numérique en bonne place et à chaque fois la notion du logiciel libre, à la fois dans le projet politique mais aussi dans le projet de l'administration. L'open source est synonyme de transparence, d'interopérabilité et de co-construction et de co-conception. Et c'est ça qui nous a aidé aujourd'hui à faire que le logiciel libre a complètement transformé le management interne de la collectivité dans sa création et dans son suivi et son développement. Et c'est vrai que c'est ce qui a conduit finalement, c'est-à-dire c'est une expérience réussie, hein, ce sont plusieurs expériences réussies, c'est des rencontres d'acteurs du libre qui portent des valeurs de transparence, de démocratie participative, de choses qui ont à la fois retenu une écoute forte de la part des politiques, mais aussi de l'administration et surtout des administrés.
Très bien. Alors, quand on préparait la mission, vous aviez fait une distinction que j'ai trouvée intéressante, parce que vous êtes, et je pense que vous pourrez d'ailleurs présenter, ça peut être intéressant, de ce qu'est finalement un directeur ville numérique à Nancy, et vous précisiez que vous n'étiez pas directeur système d'information, DSI, et ça serait quelque chose qu'on juge important, et qu'on a évalué avec, enfin, on était attentif plutôt lors de l'évaluation des différentes candidatures pour le label territoire numérique libre, c'est les relations finalement entre, on va dire, les élus et puis les équipes en interne, les équipes techniques et comment elles travaillent ensemble. Et il m'a semblé comprendre que justement vous avez une position intéressante. Enfin, voilà. Donc, quel est le rôle d'un directeur ville numérique à Nancy?
Alors, le rôle du directeur ville numérique à Nancy, déjà, on évolue dans un environnement particulier. Nancy, c'est la ville-centre d'une métropole, hein, une métropole qui comprend 20 communes, hein, donc sur un bassin de vie de 280 000 habitants, et qui a, depuis 1999, a pris la décision de mutualiser son service informatique. Donc, il y a une DSI mutualisée pour 19 des 20 communes. DSI qui a pour mission, traditionnellement, de mettre un environnement technique et technologique. Et c'est vrai que lors de l'élaboration du projet numérique de la ville de Nancy, il a été convenu que la technologie, elle devait se mettre au service d'eux et non pas être au cœur. Et c'est vrai que à partir de là, tout naturellement, l'idée d'une direction du numérique qui est centrée sur l'usager et sur les usages, avec des particularités de droit à l'expérimentation, de droit à l'échec. On essaie de pas trop en avoir, mais quelquefois on est qui dit expérimentation dit retour arrière par moment, qui a fait que du coup on a un mode de développement bien particulier et la DSI elle est un des partenaires parmi d'autres, c'est-à-dire on les associe sur des choix technologiques, mais pas forcément sur des choix d'usage. Et c'est vrai que la direction Nancy Vie Numérique que j'ai la chance d'animer, eh bien, elle se situe directement au niveau du directeur général. Je suis donc membre de l'équipe de direction, une équipe de direction resserrée, puisqu'il y a, il y a 7 personnes, et qui permet et qui est managée par un comité de pilotage présidé par Monsieur le maire et l'adjoint au numérique, qui se réunit régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a des circuits de décision très courts, des circuits d'information très courts, qui nous permettent justement de réagir vite sur les expérimentations.
En gros, c'est un sujet politique, c'est ce que vous me dites. La question,
absolument,
justement.
Hein, absolument. Absolument, et c'est ça. Et c'est vrai que très souvent, lorsque on intervient auprès de collectivités ou qu'on reçoit des collègues, c'est vrai, il est clair qu'une des raisons de la réussite, en dehors du fait qu'on est probablement très intelligent, mais ça je suis pas sûr en fait, c'est surtout que il y a eu un portage politique très fort en fait. C'est-à-dire que l'implication de Monsieur le maire, l'implication du directeur général et l'implication de l'équipe de direction fait que ça donnait du crédit à nos propositions, ça a été appuyé au plus haut niveau et ça permettait ensuite de donner du crédit à nos actions, finalement.
Très bien. Et finalement, dans tout ce que vous me décrivez, en quoi, finalement, le logiciel libre répond? Alors, je n'ai pas besoin d'être convaincu, mais je pense qu'il peut être intéressant, justement, de montrer, finalement, que le logiciel libre, j'imagine, arrive en conclusion, mais comme un objet, justement, politique, et répond à des aspirations politiques.
De plus en plus aujourd'hui, l'habitant a plusieurs soucis parce que ça fait longtemps qu'on travaille dans ce domaine et on a vu les usagers et les habitants, les politiques et nos collègues fonctionnaires changer de paradigme et avoir faire que finalement. Avant l'informatique, il y a eu un moment donné, c'était le tout puissant, on pouvait imposer les fonctionnements. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. On a des habitants qui sont éduqués, qui connaissent, qui ont l'habitude finalement de commander sur telle ou telle plateforme des produits qui viennent de n'importe où, de les suivre au quotidien. Et si c'est pas forcément très évident de leur expliquer, par contre, que quand ils viennent déposer une demande de permis de construire, eh bien, ils mettent leur dossier dans une grosse boîte noire et ils doivent attendre 2 mois pour une réponse. Et c'est vrai qu'à partir de là, le mode de réflexion a été de dire essayons de donner de la transparence, de donner des garanties et de montrer que et de rendre les choses faciles et interopérables. Et à chaque fois qu'on a mis ces conditions immuables, on est retombé sur l'idée du logiciel libre qui présentait toutes ses qualités, c'est-à-dire ses garanties de transparence, ses garanties d'interopérabilité et ses garanties aussi d'indépendance parce que tout le monde a le souci aujourd'hui de ses données, tout le monde a le souci, enfin en tous les cas, un usager, lorsqu'il confie ses données à l'administration, il est exigeant. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on puisse répondre au niveau d'exigence de nos usagers.
Oui, c'est intéressant et ça m'évoque, et j'ai trouvé que c'était très intéressant quand on préparait l'émission, justement, vous évoquiez un argument qui est de dire, en fait, ce n'est pas seulement plus que du GAFAM et ce n'est pas seulement, on n'est pas seulement dans une réflexion d'alternative au GAFAM. C'est vrai qu'on entend souvent ces arguments qui ont certes une valeur, mais l'intérêt du logiciel libre va effectivement bien au-delà. Il permet de développer des usages spécifiques, c'est ce que j'entends en tout cas de ce que vous développez. Et vous parliez, je pense que ça pourrait être aussi intéressant de revenir sur cette mutualisation et que je pense justement à un facteur très intéressant que permet le logiciel libre. Voilà, vous parliez effectivement différentes communes qui travaillent de concorde à développer voilà, des usages communs et des outils communs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quand même dans l'intercommunalité, au niveau de la métropole du Grand Nancy, on va trouver la commune de Nancy qui fait 105 000 habitants, mais on va aussi trouver des communes plus modestes, plus avec des financements ou des niveaux d'organisation différents et pour autant chacune d'elles est contrainte par le code des marchés publics, des procédures d'achat très réglementées, hein, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que l'existence du logiciel libre permet effectivement très facilement de travailler ensemble, de paramétrer, finalement on n'achète pas de licence, on achète de la formation, on achète de la prestation, on achète de l'accompagnement Et du coup, ça, c'est quelque chose qui permet à tous de travailler ensemble. On avait la joie ce matin, de préparer la réunion de lancement pour la métropole du Grand Nancy qui se lance dans le système de gestion de relations citoyens qu'on utilise depuis 3 ans. Et voilà. Et en fait, ça permet d'ajuster les pratiques, de s'harmoniser et surtout d'avoir un management qui est concrètement centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire trop souvent, les outils qu'on a eus jusqu'ici, ils étaient trop fixés, trop figés. Et c'est vrai que là, le logiciel libre, eh bien, on rencontre des prestataires qui sont tournés vers l'utilisateur et qui ne sont pas tournés vers leur chiffre d'affaires.
Ce qui m'évoque d'ailleurs un argument aussi, un autre argument qu'on défend souvent lorsqu'on parle de logiciel libre et de collectivité, souvent on dit que le logiciel libre, que les prestataires logiciels libres en fait sont beaucoup plus souvent inscrits dans le tissu économique locaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Nancy? Est-ce que justement vous travaillez de manière plus locale avec...
Alors, non, nous on peut pas dire qu'on travaille plus sur l'aspect local, puisque malgré tout, puisque on a toute la quasi-totalité de la chaîne relation usagers qui est basée sur le logiciel libre et des logiciels qui communiquent entre eux, on a des, je veux dire, le sujet local n'est pas un critère de choix. Par contre, ce qui est net, c'est qu'on voit maintenant dans nos relations avec l'université, dans nos relations avec les formations, beaucoup plus de stagiaires, le département de l'IUT de Nancy qui a développé une licence professionnelle logiciel libre, qui se rapproche de nous pour faire pas mal d'actions, des écoles d'ingénieurs, ainsi de suite. Je dirais qu'on les verrait plutôt dans ce sens-là. Par contre, sur les prestataires locaux, c'est pas tout à fait le cas, puisque malgré tout, on cherche à avoir des solutions partagées avec d'autres collectivités de taille similaire.
Entendu. Alors, puisqu'on parle aussi de mutualisation, ainsi de suite, il y a un aspect qui est important et qui était aussi d'ailleurs au cœur de l'évaluation des candidatures pour le territoire numérique libre, qui est la question des données publiques. Il m'a semblé que Nancy agissait en ce sens. On peut rappeler l'enjeu. Alors, souvent on parle d'open data, c'est déjà de rendre effectivement les données publiques, qui sont d'ailleurs les données produites par les administrations, sont de droit accessibles au public. Absolument. Et elles doivent être n'importe qui et doivent également être en mesure de les réutiliser. Alors, comment tout cela s'inscrit dans la politique ville numérique de Nancy?
Alors là, pour le coup, depuis 3 ans, dans le cadre de ce projet de développement numérique, à la ville, on a désigné un DPO, un data manager qui suit les données, et on a fait le choix de prendre quelqu'un qui est issu du service des archives. C'est-à-dire que on a cherché, on a essayé de comprendre, et on s'est dit que les personnes qui étaient les plus à même dans la collectivité à gérer les données, c'était pas les informaticiens, c'était les archivistes, parce qu'eux ont une autre façon d'appréhender les données. Et depuis donc 3 ans maintenant, tous les projets numériques, dès le début, sont suivis par cette personne-là, qui fait la cartographie au coup par coup et qui nous permet à ce tour-ci d'avoir finalement déjà une première vision intéressante de nos données. Et depuis donc maintenant plus de 6 mois, on a décidé de proposer à la métropole du Grand Nancy de mutualiser et la création d'une plateforme commune. Et donc la métropole a pris l'initiative donc de créer une plateforme open data commune. Et pour ne pas déroger à notre règle, on a fait le choix d'une plateforme, bien entendu, libre. La plateforme qui est faite par le prestataire Data for Citizen. C'était intéressant aussi d'avoir une plateforme open data libre. Donc là, cette plateforme est en train de se monter et sera mise à la disposition de l'ensemble des collectivités avec un rôle, j'allais dire, un petit peu d'évangélisation que notre archiviste aujourd'hui fait dans les différentes communes de l'agglomération avec nos collègues de la métropole.
Quand vous dites accessibles aux différentes collectivités, j'imagine qu'elles ne seront pas seulement accessibles aux collectivités, vous dire qu'elles seront réutilisables par les...
Oui, bien sûr, à la fois, je ne me suis pas exprimé, je vous prie de m'en excuser, ils auront la possibilité de déposer leurs données, c'est-à-dire là, on a rédigé un certain nombre de guides sur les données essentielles, sur comment travailler auprès des services pour que ce soit les services qui soient moteurs dans leur dépôt des données. Et donc ils auront à la fois la possibilité de déposer des données et à la fois la possibilité, bien entendu, de les utiliser ou de les consolider.
Oui, on sait que c'est important justement aussi que les données soient mises de manière à dire propre, facilement accessible, facilement, enfin, dans un format qui soit facilement réutilisable, facilement recherchable, notamment. Et je pense que c'est intéressant, du coup, ce que vous disiez sur les archivistes, car on imagine bien qu'il s'agit de rechercher sur des jeux de données, des données qui peuvent être très importantes en nombre, très hétérogènes, d'avoir une plateforme qui permet de se retrouver facilement et donc une formation pour les personnes qui vont déposer ces données de manière à le faire de manière cohérente et rationnelle est effectivement un facteur important. Alors, du coup, vous avez commencé à constater des usages intéressants qui se développent à partir de la société civile, de ces données, ou c'est encore trop récent?
Alors c'est encore récent. Par contre, il y a beaucoup de là on parlait tout à l'heure du milieu économique. Là par contre, le milieu économique se manifeste très rapidement. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de start-up locales, hein, de pépinières d'entreprises, de choses comme ça. Et là par contre, il y a beaucoup de demandes, en particulier sur beaucoup de données cartographiques, hein, j'allais dire même avant d'avoir eu la plateforme, beaucoup de données ont été déposées sur OpenStreetMap, hein, pour rendre les données déjà libérées avant de disposer de la plateforme officielle. Et là, on a pas mal de startups qui se sont intéressées et qui utilisent nos données et qui en réclament d'autres, naturellement. En particulier, il y a beaucoup de demandes autour des différentes fréquentations de nos établissements culturels. Parce qu'il y a une société qui essaie de faire quelque chose autour de ce domaine-là. Donc il y a aussi un travail, c'est aussi dans la même lignée que le travail que je citais tout à l'heure autour de l'université sur les formations, les stages et ce genre de choses.
Super, d'accord. Alors d'ailleurs, je vais revenir sur un terme que je n'avais pas parlé. Effectivement, j'avais évoqué les GAFAM, mais pour nos auditeurs et auditrices, préciser qu'il s'agit donc d'un acronyme qui nous permet en général de référer à Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et plus largement à toutes ces super, enfin multinationales des technologies souvent privatrices. Et d'ailleurs, de ce point de vue, est-ce que vous avez eu lors de tout la mise en œuvre de vos différentes politiques numériques, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant d'avoir un retour d'expérience après voilà, plusieurs années maintenant. Quels freins vous avez pu rencontrer? Est-ce qu'il y a des succès particuliers, des surprises, finalement des choses où vous pensiez à devoir lutter qui se sont mis en place de manière plus simple que prévu et particulièrement bien accueillies? Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Alors, honnêtement, souvent, la première action forte qu'on a lancée, c'est le choix de la gestion de relations citoyens. Globalement, on l'avait résumé dans un premier temps à la mise en place de formulaires en ligne et le suivi des demandes. Et ça a été fait sur la base d'une plateforme en logiciel libre. Et ça a été une vraie réussite du fait de la conduite du projet avec des ateliers, avec avec des résultats évidents. C'est-à-dire qu'en 3 mois, 60 démarches en ligne et très très vite plus de 150 agents qui l'utilisent. Ça a été le succès. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ce genre de projet, quand il démarre par une success story, c'est assez facile. Les freins, ils sont venus, on en a encore, hein, malgré les réussites. Le premier, il vient de la culture informatique de notre DSI, hein, qui eux sont basés sur du logiciel libre, sur du logiciel purement propriétaire, avec des applications classiques de comptabilité, de finance, d'urbanisme. Et là, il y a une petite crainte, l'absence de sécurité, le logiciel libre c'est pas sécurité, il y a des failles, des choses comme ça. Donc ça, on a dû montrer, prouver, expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces freins-là sont tombés un peu les uns derrière les autres. Ils sont encore un petit peu réticents de temps en temps pour faire la maintenance. Ils nous disent que si on a choisi, on n'a qu'à se débrouiller. Mais bon. Ça, les mentalités avancent bien du fait du succès. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, on migre la totalité de notre parc, enfin la quasi-totalité de notre parc bureautique de la suite Microsoft vers la suite LibreOffice. Ça représente quand même 800 postes. Et là, il y a quand même dans l'inconscient collectif l'impression qu'on est en train de leur mettre une version à bas coût, que c'est parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que Et là, bon, il faut expliquer, accompagner. Et je dirais que l'individu, tant que c'était des applications, ça ne l'a pas dérangé. Lorsqu'on est sur la suite bureautique, on rentre presque dans l'intime. Hein. Et là, on a eu un peu plus de difficultés. L'accompagnement est un peu plus long. Sur une opération, on pensait qu'un an nous suffirait pour faire cette migration. On est à 18 mois actuellement.
D'accord. Et pour faire ces formations, c'est quelque chose que vous faites en interne? Vous faites appel à des compétences, des connaissances externes?
Alors là, comme c'est au début, on est parti sur de l'externe, sur la formation LibreOffice, et puis assez vite, on a vu qu'il fallait un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et donc dans ce cadre-là, maintenant, on a embauché une personne qui s'est formée et qui accompagne, et qui fait du coaching, qui anime des ateliers réguliers maintenant. Donc on utilise les technologies aussi qui sont liées au brainstorming et à l'innovation, c'est-à-dire on organise des petits déjeuners du libre, des ateliers réguliers, des sensibilisations, des tutoriels, enfin, très classiques, mais il y a un accompagnement au quotidien.
D'accord. Oui, c'est ce qui nous semble effectivement essentiel. On commence à toucher finalement à quelque chose d'extrêmement important et sur lequel je voulais qu'on passe un peu de temps, justement à cette notion de comment ça se passe en interne par rapport à vos agents, dans l'accompagnement, et ça vous avez commencé à l'évoquer. C'est quelque chose qu'on voit souvent, hein, que les politiques d'accompagnement au changement, comme on les nomme souvent, sont fondamentales, et on voit que ça peut être difficile et que ça peut prendre du temps. Et parfois, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous oppose comme étant les politiques, les coûts cachés du logiciel libre. Et d'ailleurs, vous avez commencé également à parler, il y a un déplacement des coûts, et on voit bien que c'est donc un investissement. Oui.
C'est clairement. Alors là, à aucun moment on a déployé l'argument coût dans dans les raisons du choix du logiciel libre. On ne souhaitait pas que l'argument de dire c'est des solutions au rabais, forcément, ça on voulait pas que ça soit utilisé. On voulait pas que ça soit utilisé, mais en plus ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est simplement, comme vous l'avez dit fort justement, un déplacement des coûts, c'est-à-dire l'argent qu'on ne met pas dans l'achat de licence, on le met dans l'acquisition, de prestations d'accompagnement, dans la personnalisation, et ça fonctionne très très bien. Je cite toujours le cas de la gestion de relations citoyens. Aujourd'hui, on a 250 utilisateurs journaliers qui sont dessus tous les jours, et on n'a pas fait de formation en tant que telle. On a animé des ateliers, beaucoup d'ateliers de personnalisation, des ateliers de gestion des workflows, des ateliers, et on voit que c'est bien, l'appropriation s'est faite de façon naturelle et c'est bien plus facile. Et ce qu'on constate aussi, c'est que comme on peut faire plus d'ateliers, comme on peut faire plus de choses, eh bien, on remet les gens à niveau. L'arrivée de LibreOffice permet, par exemple, de reformer les gens à des fonctions qu'ils ignoraient. On a, dans une maison comme la nôtre, où il y a 1300 agents, des gens qui sont arrivés en poste, qui se sont mis devant un ordinateur, puis qu'on fait avec ce que le voisin leur avait expliqué, puis ça tournait comme ça, quoi. Là, l'arrivée de LibreOffice nous permet de les reformer, de leur remontrer ce que c'est qu'un publipostage, un tableau dynamique croisé, enfin, vous voyez, des choses comme ça qui font que, en plus, ça s'accompagne d'une montée en compétences. On le constate pratiquement sur toutes les opérations qui ont été faites. La mise en œuvre de logiciels libres fait que on amène les gens à travailler entre eux, à reparler, à retravailler sur leur poste et leur mission, sur comment les logiciels doivent causer entre eux, et on a une montée en compétences.
Ouais, c'est très intéressant. Souvent, on parle de logiciels libres comme des vecteurs d'émancipation, et là, on voit le développement des agents en montée en compétences. Donc, je pense que c'est plus valorisant aussi dans leur travail. Donc, ça, c'est intéressant. Je vous propose après, on pourra peut-être évoquer un peu plus en détail la question de l'acquisition et de vos politiques et comment justement vous acquirez priorité, j'imagine, du logiciel libre. Mais avant cela, peut-être nous allons faire une courte pause musicale.
Nous allons effectivement faire une pause musicale pendant cette passionnante discussion. Nous allons écouter Hard Country par Townhouse Woods. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1. Made me sweet. made me long for a god of mine to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end. And I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me at the U bar in, you'll find me. Room 11, just me and my six gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find give you some lessons round these parts.
Nous venons d'écouter Hard Country par Tonehouse Woods, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Mon collègue Étienne Gonu échange en ce moment avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy. Et je leur repasse la parole.
Merci Fred. Olivier, donc je pensais qu'il serait intéressant d'évoquer avec vous la politique finalement d'acquisition. Comment est-ce que vous acquérez du logiciel et comment vous faites en sorte d'acquérir plutôt du logiciel libre? Est-ce que vous avez finalement une procédure spécifique ou c'est dans le cahier des charges?
Pour les gens qui ne connaissent pas, dans l'achat public, on a une obligation de mise en concurrence, donc réaliser des marchés publics, ça veut dire écriture d'un cahier des charges, publication d'un appel d'offres, et puis ensuite choix des prestataires sur des critères qui sont déterminés par avance. Il est certain que lancer un appel d'offres en disant « je souhaite un logiciel libre » est un critère qui ne convient pas. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, comment on procède? On procède finalement différemment aujourd'hui. La première phase, c'est toujours une co-construction des besoins, donc avec des groupes utilisateurs, des usagers lorsque c'est possible et lorsque le domaine le permet. Et ensuite, on élabore les besoins et on observe, on regarde un peu ce qu'il y a sur le marché. Et ensuite, une fois qu'on a et une fois qu'on s'aperçoit, on trouve un logiciel libre qui convient, et bien on lance des appels d'offres, non pas pour choisir le logiciel, puisque finalement on vient de le choisir, mais plutôt pour chercher un prestataire qui va nous installer ce logiciel. C'est une procédure tout à fait légale, hein, mais qui nous permet d'être conforme à la législation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par contre, dans ce cahier des charges, ce que l'on souhaite, c'est toujours, on fait l'acquisition de prestations à la fois d'installation et d'accompagnement, mais aussi des prestations de maintenance. C'est-à-dire que tous les logiciels que l'on a acquis font l'objet de contrats de maintenance pour assurer, l'équilibre économique de notre prestataire et puis de notre partenaire, plutôt d'ailleurs, je devrais dire.
Et c'est intéressant, effectivement. Alors, il y a eu un arrêt, il y a des juristes qui nous écoutent, et sans rentrer dans les grands détails, il y a un arrêt qui est important du Conseil d'État qui, justement, précise ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il dit très clairement qu'il est possible pour une collectivité de prendre un logiciel libre, et puisque c'est un logiciel libre qui est librement accessible à toutes, dont les spécifications sont connues, de faire finalement un appel à prestation sur ce logiciel
Absolument.
Libre. Et en fait,
voilà.
Finalement, on n'acquiert plus un objet, mais on va plutôt aller chercher de l'intelligence, chercher un savoir-faire.
Fait un marché de prestation de services et non plus un marché d'acquisition de logiciels. Ce qui permet donc, ensuite, lorsqu'on veut mutualiser, que ce soit nos collègues du Grand Nancy ou d'une autre commune, ils peuvent du coup imposer dire on prend le même logiciel, simplement ils n'ont pas obligation de prendre le même prestataire, puisque s'ils trouvent un autre intégrateur, le problème n'est pas même. Mais du coup on peut se causer facilement. Et ça c'est vraiment la solution qui nous permet maintenant d'avoir quelque chose de très fiable. Mais je réinsiste bien sur la notion, on fait bien le choix d'avoir des logiciels avec des contrats de maintenance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, il faut qu'on continue à avoir une prestation et un travail de partenariat avec des rémunérations qui sont à la hauteur de nos demandes, quoi.
Et est-ce que vous avez une politique peut-être de développement en interne ou tout ce que tout
le monde... Non, pour le coup, on a peu de politiques de développement. Ce que l'on fait, c'est une politique plutôt de façon très régulière. On fait développer des connecteurs, on fait développer des fonctionnalités qui, bien entendu, sont forcément remises immédiatement sur les forges. Remise dans le domaine du libre, mais nous n'avons pas une politique de développement. C'est-à-dire on est une toute petite équipe de 5 personnes et quelques stagiaires nous font des petits modules, des petites adaptations, mais sans grandes ambitions, quoi.
Et alors cette politique de remettre sur les forges, genre les forges, c'est finalement des espaces en ligne, des plateformes où on met les codes en ligne pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres et où finalement un logiciel va être développé de manière collaborative en ligne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le logiciel libre. Alors, c'est une vigilance que vous avez pour que les prestataires le fassent ou les prestataires, vous laissez faire les prestataires qui le font généralement. C'est plus un constat ou s'il y a une action volontaire
Ah non, ça fait partie des choses que l'on... Enfin, je dirais... Non, il faut absolument que ça soit fait par les prestataires. C'est demandé parce qu'il faut qu'on reste c'est la notion des biens communs, quoi. Non, c'est vraiment, ça fait partie du cahier des charges et des contrats qu'on fait ensemble.
Ouais. Alors, vous parliez de nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est comment les agents publics sont inscrits là-dedans. C'est eux qui font remonter des besoins, j'imagine. Est-ce qu'il y a un processus qui est mis en place, une procédure qui est mise en place pour ces remontées de besoins
Alors oui, clairement, c'est-à-dire que là, on va remonter un petit peu d'un cran. C'est vrai qu'après avoir constaté le bénéfice qu'on tirait de ce fonctionnement par atelier, de ces fonctionnements récurrents, on a souhaité développer ça sur l'ensemble des projets. Et assez vite, on s'est aperçu, et la mission Nancy Vie Numérique, finalement, a recruté un ingénieur innovation. Et cet ingénieur innovation, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, accompagne l'ensemble des projets dans leur suivi en organisant des modules d'expression et de co-construction et de suivi de l'ensemble des applications. Ce qui nous permet d'avoir des panels utilisateurs. Un exemple qu'on cite souvent parce qu'on est assez fiers de ça, mais sur les services en ligne, on a un panel testeur d'accessibilité. Hein, il s'agit de d'une dizaine de personnes suivies par le Centre communal d'action sociale, qui sont soit porteurs de handicap, soit en situation de grande difficulté sociale, et qui testent de façon très régulière nos services en ligne, ce qui permet en permanence d'avoir des ateliers pour les modifications et de remonter ensuite à la société entrouverte les difficultés qu'on rencontre, soit sur les termes graphiques, soit sur des simples libellés, des phrases trop longues, des termes inappropriés, du jargonnage, y compris dans les formulaires, enfin des choses comme ça. C'est vrai que, et là, nous, on est intimement persuadés que c'est cette philosophie du libre qui nous a amenés à tout doucement basculer vers ces techniques d'innovation permanente.
Innovation permanente, intéressant. Est-ce que vous pouvez développer sur cette idée ?
Eh bien, c'est-à-dire que finalement maintenant, tous les projets se font sous la forme de réunions, de co-design, de co-construction, ce qu'on appelait il y a quelque temps finalement du brainstorming, mais avec des méthodes qui sont adéquates, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui vont élaborer du maquettage, des possibles, et qui du coup, sur la base des logiciels que l'on dispose, vont pouvoir imaginer de nouvelles fonctionnalités et ensuite les proposer aux différents concepteurs.
Ah, et c'est vrai qu'on entend... Bonjour, je vous écoute. Pardon, on vous écoute.
Oui, et du coup, c'est vrai que le fait qu'un certain nombre d'usagers soient présents ou d'associations, ça nous aide finalement à être au plus près de l'usager. Et c'est vrai que la souplesse des éditeurs de logiciels libres, des concepteurs de logiciels libres, nous permet d'imaginer ça. Ce qu'on ne peut pas, enfin, ce qui est beaucoup plus compliqué de faire avec des logiciels propriétaires, puisque il y a des enjeux économiques forts, il y a des choses comme ça qui font que ils ont leur roadmap sur des mois et ils ne veulent pas en bouger, quoi.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, et cette manière de se réapproprier cette notion d'innovation, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend un peu à tout bout de champ et on sait plus, qui est un peu vidé de son sens.
Oui.
Et cette manière de se le réapproprier collectivement, de repartir finalement, voilà, de la pratique des agents, du vécu des utilisateurs et des utilisatrices, et je trouve que ça redonne sens et ça montre aussi l'intérêt, enfin, ce à quoi répond le logiciel libre et comment justement c'est des objets communs qui permettent une réappropriation collective d'un outil dont finalement on est tous dépendants dans nos relations sociales, dans nos relations avec les administrations et les collectivités. Et donc c'est très intéressant comme approche, je trouve, et ça répond bien finalement aussi à l'enjeu du logiciel libre. D'ailleurs, on a pas mal parlé, là, le temps file, on a pas mal parlé de ce qui passe en interne. Vous aviez déjà aussi un peu commencé à évoquer les relations, enfin dire l'aspect plus externe du coup, la relation avec les usagers, avec les administrés, et comment une politique, une ville numérique tournée vers la liberté informatique, comment ça s'inscrit du coup du point de vue dans la relation aux usagers.
Alors les relations aux usagers, bon, on essaie de, ils sont beaucoup sensibilisés, on communique pas mal sur la notion de logiciel libre et sur la notion aussi de transparence. Et c'est vrai qu'il y a un rôle. On s'est refusé à ce que notre projet s'appelle Smart City parce qu'on trouvait que c'était un terme tarte à la crème. Et quant à être smart, on a préféré travailler sur la notion de smart citoyen. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, avant de se lancer dans la Smart City, il fallait peut-être déjà qu'on montre que nos usagers étaient assez compétents pour ensuite nous aider à définir ce qu'ils attendaient sur la Smart City. Et donc, dans ce cadre-là, tout un grand nombre d'associations, mais essentiellement, je pense à l'Office des personnes âgées et puis à notre médiathèque bibliothèque, font beaucoup d'initiations autour du logiciel libre. OpenStreetMap est souvent invité pour faire des cartes aux parties, enfin, des choses comme ça. Donc, une grosse sensibilisation dans ce domaine. Et puis aussi, un rôle qu'on assume tout doucement, d'évangélisateur au niveau de la région Grand Est, puisqu'on fait pas mal d'événementiels, dont pour nous c'est important, un événementiel une fois par an qu'on appelle le Libre sur la place, hein, sur cette belle place Stanislas à Nancy, où on réunit les acteurs publics, on est entre 150 et 200 personnes, et on réfléchit sur... on montre que c'est possible, et en novembre dernier, nous avions par exemple la Gendarmerie nationale qui avait expliqué que c'est possible. Oui, c'est possible, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les gros, c'est pour tout le monde peut faire. Et de dire que plus on sera autour de ça, et plus on va pouvoir fédérer, faire des groupes de plus en plus larges, et plus loin on pourra avancer.
Alors la notion, vous parlez de carte au parti, alors c'est vrai que la notion de parti est souvent utilisée, j'ai l'impression, dans les communautés du livre, cette idée finalement de travail en commun. Alors j'ai plus d'émissions spécifiques en tête, mais on avait fait une émission, on avait pas mal parlé, notamment avec les personnes d'OpenStreetMap, on avait fait il était question de ces cartes au parti, et on mettra le lien sur le site de l'April, et je pense que c'est une très belle illustration de travail en commun. Donc là il s'agit, peut-être que vous pourrez développer si vous le souhaitez, mais j'imagine d'utilisateurs et d'utilisatrices de cet outil, en tout cas OpenStreetMap, qui se mettent en commun justement pour améliorer les cartes, améliorer finalement leurs cartes de leur lieu de vie.
Là, le dernier exemple en date, ce sont un conseil de quartier qui avait envie de faire, de créer des itinéraires de découverte d'un des quartiers, qui n'était pas le quartier le plus touristique de Nancy, mais qui estimait qu'il y avait un certain nombre de jardins remarquables en arrière-cour, et qui est, par le biais d'une carte au parti, a établi des parcours de découverte avec l'aide de nos collègues d'OpenStreetMap, et là on a une vraie dynamique qui s'instaure, et aussi une culture du collaboratif, c'est-à-dire comment on peut faire ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, par la suite, et ces mêmes personnes, c'est bien plus, vont assez vite se proposer lorsqu'on veut travailler sur des nouveaux logiciels ou des nouveaux services.
Alors, juste pour préciser, donc l'émission, c'est celle du 11 juin 2019, l'émission 29. L'émission, nous avions reçu des personnes d'OpenStreetMap. Vous parlez de cette culture du collaboratif. Est-ce que vous avez senti un développement, une prise en main de ces sujets par la population de Nancy, une appétence qui se développe, des initiatives nouvelles depuis que vous menez finalement ces politiques tournées vers le logiciel libre?
Alors, après, il y a les usages traditionnels, on va trouver les usages traditionnels des réseaux sociaux, mais il y a plusieurs domaines qui finalement ont fait des choses intéressantes. Il y a tout un travail autour des amis des musées, des associations des musées, sous l'animation de l'équipe des musées, mais il y a eu tout un travail au niveau de ce qui a été appelé un Wikiton, c'est-à-dire une mise à jour de Wikipédia et de Wikimedia, surtout la description de toutes les œuvres d'une grande partie des œuvres des différents musées. Ça a été une culture, et du coup ce sont des groupes qui continuent maintenant à travailler, c'est-à-dire ils ont été formés avec les équipes du musée, et viennent enrichir maintenant cette grande encyclopédie collaborative. Et puis on va trouver aussi les conseils de quartier, donc 7 conseils de quartier qui finalement se sont auto-saisis de la plateforme de participation digitale, qui bien entendu est une plateforme logicielle libre, pour s'en faire des dispositifs propres à eux. Et aujourd'hui, ils sont capables d'organiser des concertations, ils sont capables d'organiser des débats collaboratifs en prévision de leurs assemblées générales. Et on voit que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, cette culture prend. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont envie de faire plus et qui imaginent des usages auxquels, par exemple, pour les conseils de quartier, on n'avait pas forcément pensé nous-mêmes. C'est eux qui sont venus nous solliciter. Et c'était vraiment très intéressant.
Tout l'intérêt du logiciel.
Et pour le coup, le fait que ce soit logiciel libre, c'est simple à mettre en œuvre. On n'a pas de coûts supplémentaires. On peut leur mettre facilement à disposition. On n'a qu'à les accompagner en termes de formation. Et ça s'est très bien passé.
C'est de belles illustrations. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous souhaiteriez évoquer ou développer?
Écoutez, je crois que c'est un peu, j'en ai parlé rapidement, c'est aujourd'hui pour les collectivités territoriales, il y a une grosse sollicitation de la part de grosses entreprises pour ce qu'on appelle, surtout pour des collectivités de notre taille, sur la Smart City, finalement, Smart City, des outils d'hypervision et ainsi de suite. Et tout ça, nous, on trouve que on est à côté. Enfin, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça dont on a besoin. Et c'est vrai que à côté du logiciel libre et d'un gros projet de transition écologique, aujourd'hui, on travaille beaucoup à travers le logiciel libre, justement, sur la notion d'informatique et de numérique responsable. Et c'est vrai que la notion de responsabilité sur l'impact carbone du numérique, sur des choses comme ça, et c'est vrai que le logiciel libre en lui-même nous permet maintenant d'avoir un nouvel axe de travail sur le projet de transition écologique de la ville. Et à travers ça, du fait qu'on a des logiciels qui doivent maintenant non seulement être libres, mais être aussi conforme à des règles d'éco-conception, de consommation, d'interopérabilité. Et c'est quelque chose sur lequel on est très très intéressé. On regarde de très très près les travaux du nouvel institut du numérique responsable. Le sujet du numérique et de l'open source à travers la notion d'écologie est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui un sujet très très important et qui quelquefois est complètement oublié au profit des smart cities où on fait plutôt un concours de capteurs dans la ville à celui qui a inventé un nouveau capteur sans trop savoir ce qu'on allait faire, mais surtout content parce que personne n'y avait pensé.
Oui, alors c'est vrai que souvent quand on entend parler de Smart City, alors vous parliez d'un terme tarte, je pense qu'on peut, je ne peux qu'être d'accord sur, c'est vrai que c'est un côté très marketing, et vous parliez de capteurs, effectivement, et on voit une inquiétude grandissante parmi les défenseurs, les personnes qui défendent les libertés informatiques, hein, les Smart
Bien
City qui apparaissent comme étant surtout, qui s'inscrivent plutôt généralement dans des politiques sécuritaires de contrôle, et donc finalement on crée des villes assez aliénantes et complètement aplaties, déshumanisées, et de réintroduire avec ce que vous évoquez fort juste titre un numérique responsable, mais qui appartient aux citoyens et aux citoyennes, qui appartient aux populations, me paraît non seulement intéressant mais assez fondamental. Et peut-être aussi, ça veut dire, quand on parle de responsable écologique et ainsi de suite, ça veut peut-être aussi dire, vous pourrez me corriger, mais peut-être un meilleur numérique, moins de numérique aussi, puisqu'on sait bien qu'il faut des...
Bien sûr. Pourquoi mettre... C'est pour ça que la notion souvent d'hypervision... On a le même phénomène qu'on a eu à un moment donné sur les services informatiques. Maintenant, une hypervision, mais pourquoi avoir une hypervision? Enfin, déjà, ce terme est bizarroïde, mais en plus, pourquoi faire, quoi? C'est-à-dire, et c'est en cela où, quand on explique qu'on a des smart citoyens, des gens à qui se sont appropriés des produits, maintenant, on va pouvoir leur demander ce qu'ils veulent et comment ils veulent qu'on les utilise. Et à ce moment-là, on va leur faire des choses qu'ils pourront contrôler et qu'ils font bien ce qui est attendu. Et on est bien dans la définition de l'open source.
Alors du coup, ça c'est ce projet, c'est quelque chose que vous faites vraiment plutôt, c'est centré sur Nancy, c'est quelque chose que vous essayez de faire à plus grande échelle,
non.
Peut-être avec d'autres collectivités.
C'est quelque chose qu'on essaie de faire à plusieurs collectivités, hein, parce que là, pour le coup, il est nécessaire que on arrive là sur des projets, sur des produits qui doivent rentrer dans le bien commun. Et pour ce faire, on travaille ou on commence à travailler avec d'autres collectivités qui ont à peu près la même vision. Et en l'occurrence, on va en reparler là très prochainement puisque on a une rencontre à Nevers la semaine prochaine. Et c'est vrai que par exemple une ville comme Nevers a des initiatives et a des idées qui sont très proches des nôtres et on se dit il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Il y a des gros groupes aujourd'hui qui démarchent tous les maires de toutes les grandes métropoles pour leur proposer des solutions clés en main avec le contrôle de l'éclairage, pourquoi pas de la reconnaissance faciale ou choses comme ça. Il faut que nous, on puisse travailler différemment, mais tout en ayant, j'allais dire, suffisamment de force pour pouvoir répondre aux attentes des élus qui veulent bien qu'on réfléchisse, mais qui veulent aussi qu'on ait des résultats.
C'est sûr qu'il y a un marché qui se développe là-dessus avec des problématiques en termes de respect des données personnelles, d'intrusion dans l'intimité des personnes, et donc d'où la nécessité aussi que les pouvoirs publics s'investissent sur ces questions et un vrai rapport politique sur les usages que ça permet, sur l'intérêt de ces usages, pas seulement finalement en termes de praticité, sécuritaire, etc., mais ce que ça signifie politiquement et comment on se les accapare et comment on intègre, j'imagine, les populations dans ces décisions et dans la définition
Absolument.
Des usages pertinents. Alors vous parliez de Nevers, on peut citer d'ailleurs Nevers comme étant également labellisé territoire numérique libre.
Oui, territoire numérique libre niveau 4 avec des acteurs très forts.
Et je vous avais interrompu, pardon. Sur les
populations, non,
sur la capacité des populations à se ressaisir de ce sujet. Enfin, cela dit, vous aviez déjà pas mal évoqué cette question, mais.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Et c'est vrai que, et puis, dans la notion d'informatique responsable, de numérique responsable, il y a aussi la notion d'inclusion numérique. C'est-à-dire que tous ces outils-là doivent aussi toujours donner le pendant numérique responsable. Et je ne l'ai pas dit, mais tout ce développement de services numériques et de mise en place ne s'est jamais fait ici au détriment de l'usage traditionnel, j'allais dire guichet, et c'est vrai que c'était une contrainte forte du maire de Nancy, mais aucun service ne se fait exclusivement en ligne. On peut faire pratiquement tous les services, toutes les démarches, vous pouvez les faire en ligne, mais il n'y en a aucun qui se fait exclusivement en ligne. Et c'est vrai que derrière, pour nous, le média universel, c'est le téléphone. C'est-à-dire que c'est le téléphone, et donc du coup, il y a tout un travail qui a été fait pour que lorsqu'il y a des choses qui doivent se faire en ligne, elles se font via le téléphone avec des intermédiaires, des médiateurs, des choses comme ça, voilà.
Très intéressant. Alors peut-être, puisque vous parliez sur la notion d'accessibilité, on sait que c'est une question qui est difficile. Est-ce que vous avez peut-être un mot rapide sur la question ?
Alors oui, il y a la prise en compte permanente de l'accessibilité dans le respect des règles classiques. Il y a ces fameux testeurs d'accessibilité dont je vous ai parlé. Là c'est l'humain, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des sites qui respectent le RGA niveau 2, niveau 3, niveau or, niveau bronze, puisque les choses évoluent au fil du temps.
Référentiel général
d'accessibilité.
C'est-à-dire
que ce sont des normes, le référentiel général d'accessibilité, qui est un référentiel qui donne les règles techniques et technologiques pour qu'un site internet et tous les sites publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Avec des couleurs, des conditions d'agrandissement, de choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, on a donc ces fameux testeurs d'accessibilité qui se réunissent une fois par an ou deux fois par an et qui passent en revue tous les services en ligne et les nouveaux services et qui nous disent des choses. J'ai toujours en tête cette personne, on était très fiers de notre page de formulaire et qui nous a dit mais moi j'arrive pas bien à lire et l'introduction il y a trop de phrases, il y a trop de mots dans l'introduction de votre formulaire, je n'arrive pas à le lire, je ne comprends rien. Et voilà, et ça, une fois qu'on a eu ce genre de personnes, ça nous amène à réfléchir autrement. Et puis il y a un certain nombre de services sur l'accessibilité qui sont mis en place. Typiquement pour les personnes sourdes et malentendantes, avec un service en ligne, cette fois-ci, qui est carrément une prestation, où les gens, lorsqu'ils appellent la mairie et qu'ils se déclarent en situation de défaillance auditive, passent par des médiateurs, par l'équivalent d'une visioconférence, où là, il y a des gens qui sont capables de signer et de lire la langue des signes ou le langage labial, ou donc lire sur les lèvres, classiquement, et puis transcrire par écrit ou en oral pour que l'autre opérateur. Donc ça permet, et c'est pour ça que je dis que le téléphone est central sur cet aspect-là.
D'accord.
Parce que du coup, même une personne... Et par exemple, on est très 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 attentif au nouveau dispositif proposé par l'État qui s'appelle Aidant Connect, qui est en cours de montage, sur lequel on essaie d'avoir une participation active, qui consiste à autoriser des médiateurs autorisés, cette fois-ci, à remplir des formulaires sensibles à la place d'eux.
D'accord, c'est passionnant, mais je vois qu'on arrive vraiment sur le... qu'on arrive sur les dernières secondes. Vraiment, c'était passionnant, je vous remercie. Je trouve très intéressant qu'on finisse cet échange sur la centralité du téléphone et de l'humain dans tout ce dispositif. En tout cas, Olivier, directeur de la Ville Numérique pour Nancy, un très grand merci à vous, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et merci d'être avec
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Enfin.
Alors, mon collègue Étienne Gonu échangeait avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy. Et évidemment, le téléphone est aussi central à la radio pour faire notamment des interviews. Donc, nous allons passer une pause musicale avant le sujet suivant. Nous allons écouter Just a Smile par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Souriez, vous êtes sur Cause Commune.
Cause Commune
93.1. Thank you.
Écoutez Just a Smile par Emmanuel Saraco, disponible sous licence art libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Emmanuel Saraco, qui est un libriste qui travaille pour la société Easter Eggs, que nous avons déjà reçu dans l'émission et avec qui nous partageons d'ailleurs des locaux. Et Emmanuel, si vous le rencontrez un jour, offrez-lui une raclette, c'est un grand amateur de raclette. Voilà, vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April, qui nous a rejoint dans le studio. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Tu souhaites nous parler aujourd'hui de la tentation de la réécriture.
Oui, alors bon, je vais un peu décevoir nos éditeurs en matière de tentation. Il n'y aura rien de sulfureux ou de licencieux dans ce que je vais raconter. Nous restons dans le domaine de l'informatique, bien loin des œuvres de Satan s'acharnant sur le pauvre Saint-Antoine dans le désert. Donc, si la tentation dont je vais vous parler est bien innocente, il n'en reste pas moins que nombreux sont les informaticiens qui ont été soumis à l'occasion de la reprise d'un site web ou tout autre projet informatique qui a été initié par d'autres que ce soit d'ailleurs dans un cadre militant ou dans un cadre professionnel.
Alors, en quoi consiste cette tentation ?
Alors, la tentation de la réécriture, c'est de repartir de zéro plutôt que de corriger l'existant. Alors, parce qu'en effet, reprendre un code existant, c'est pas un exercice de tout repos. Il faut comprendre la logique de vos prédécesseurs, retrouver quel bout de code fait quelle action, tester des modifications en espérant que tout va continuer de fonctionner, et parfois se plonger dans un logiciel, voire même un langage inconnu ou tout au moins mal maîtrisé. J'en ai fait récemment l'expérience, c'est ce qui m'a inspiré pour cette chronique, c'est en intervenant en mode pompier, c'est-à-dire un peu dans l'urgence, sur la nouvelle version d'un site web auquel il mentait plus grand chose pour être mise en ligne, mais dont le développeur ne donnait plus aucun signe de vie.
Et ça arrive souvent qu'un développeur, une développeuse disparaisse comme ça dans la nature ?
Alors, c'est pas rare, hein. Je l'ai vu déjà le cas 3 ou 4 fois. Je pense que le monde associatif est particulièrement vulnérable à ce risque. Parce que comme les budgets sont faibles la plupart du temps, on fait appel souvent à des prestataires indépendants et sont ceux, eux, qui sont le plus susceptibles soit d'abandonner leur activité ou à l'opposé de se voir proposer des postes et des projets beaucoup plus intéressants et lucratifs que de faire un site web et donc ils donnent plus de signes de vie. Et le problème arrive aussi quand le site est fait par un bénévole qui peut se lasser au bout de quelques années et puis va voir ailleurs. Et donc dans ces cas-là, il faut trouver une autre personne qui doit se pencher sur la question et celle-ci va devoir se plonger dans le code, souvent sans aucune passation de témoin n'ait été faite.
Avant de poursuivre sur mes questions, ça me fait penser au fameux bus factor en informatique. Hein. Bus factor, c'est le nombre de personnes qui doivent passer sur un bus pour qu'un projet meure. Et là, c'est un bus factor de 1, c'est-à-dire que s'il y a une seule personne et que cette personne passe sous un bus, le projet est en fait quelque part mort.
Voilà, je n'utilise pas l'image du bus, mais moi j'utilise l'image si jamais la personne a une crise mystique et part dans le Tibet, dans un ashram, effectivement, ça revient au même. Mais
ton image est très bien. Alors donc, poursuivons. Donc, qui dit tentative dit évidemment danger d'y céder. Hein, et en quoi est-ce dangereux de céder à la tentation de la réécriture ?
Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. On peut ne pas aimer la façon de coder de ceux qui vous ont précédé. Oui, on ne peut pas aimer le logiciel ou le langage utilisé pour gérer le contenu du site. Oui, on peut penser qu'on s'en sortirait mieux si on appliquait d'autres méthodes, en particulier les siennes. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas présumer de ses forces et de son talent. La réécriture peut vous emporter très loin. Et comme le diable est dans les détails, on peut facilement réécrire à 90% un site, par exemple, et mais tomber sur un os dans la dernière ligne droite. Bref, c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Et ça va pas être juste un simple caprice de développeur. Mais le problème, c'est que c'est une décision d'autant plus tentante qu'elle sera encore plus efficace si elle est prise tôt.
Et pour quelle raison?
Parce que, pour reprendre l'expression, corriger un site bancal, cela peut être une cautère sur une jambe de bois. On bricole une solution, mais elle ne tient pas sur la durée. Bref, on perd du temps, on s'acharne et au final, on lance la réécriture parce que c'est la seule solution du site. Réécriture qu'on avait repoussée jusque-là. Donc, on a perdu du temps. C'est un peu moi le sentiment que j'ai d'ailleurs sur le site sur lequel je travaille en ce moment. J'ai tout d'abord répondu à une série de demandes urgentes auxquelles je n'ai pas eu de difficulté à répondre. Le code existant est tout à fait correct. Je ne vais pas casser du sucre sur le dos de mon prédécesseur. Mais juste avant la mise en ligne, j'ai reçu une dernière salve de commentaires, de suggestions de l'équipe en charge de la structure. La plupart sont assez bénignes, c'est surtout des ajustements de mise en forme, de disposition d'éléments sur la page web. Rien de bien méchant a priori. Mais en fait, certaines demandes se révélaient redoutables. C'est parce que ce sera pas si simple d'y répondre au vu justement de la manière dont est organisé le code actuellement. Et surtout, ce que je sais pas, c'est est-ce que ces demandes sont réellement les dernières avant la mise en ligne?
Forcément non.
Forcément non, évidemment. c'est au contraire, c'est plutôt les premières d'une longue série, puisque une fois mise en ligne, les gens vont vraiment se pencher sur le site et vraiment découvrir tous les petits problèmes. Donc, si c'était réellement les dernières, quelques rustines, ça pourrait suffire, mais là, comme ça risque de pas être les dernières, faut réfléchir sérieusement à un plan B, puisqu'après, l'accumulation des solutions bricolées, des rustines, ne peut conduire qu'à un monstre informatique difficile à maintenir. Et là, je pense que si je continue dans cette voie, pour le coup, ce sera la personne qui me succédera un jour, si je vais dans un ashram au Tibet, par exemple, mais qui me succédera dans le développement du site, qui, elle, pourra, quand elle lira mon code, légitimement dire que j'ai fait n'importe quoi et que j'ai codé avec mes pieds, voilà. Ce sera. Bref, voilà. Donc la grande question, c'est réécrire ou ne pas réécrire un code. On a toujours cette tentation. On ne sait pas à quel moment on doit faire la bascule. Est-ce qu'on se lance dans un projet encore plus délirant que simplement corriger? L'expérience peut permettre de juger un petit peu, mais c'est parfois un coup de dé.
Oui, ça peut être un coup de dé, puis ça peut aussi peut-être dépendre aussi de la découverte d'un nouveau langage ou peut-être de l'évolution de langage de programmation qui se dit finalement avec ce nouveau langage ou en tout cas avec ce langage que je viens de découvrir, la réécriture du code est intéressante parce qu'elle va permettre peut-être d'être plus efficace, d'être plus rapide, plus modulaire, je ne sais pas. C'est peut-être une des raisons qui peuvent pousser à un moment à réécrire ce code.
Oui, parfois il est bon d'attendre, de regarder, de faire beaucoup de veille. C'est toujours de faire de la veille des autres cas et se dire que finalement le bricolage auquel on pensait est peut-être résolu de manière beaucoup plus élégante, de manière beaucoup plus facile, maintenable par une nouvelle solution. Donc parfois aussi il est urgent d'attendre.
Voilà. Mais le problème, comme tu dis, si on attend trop, on se retrouve avec un monstre et que personne ne veut se lancer dans la réécriture. Et après, on se rend compte que finalement, il y a une personne qui maintient. Et là, c'est toujours la difficulté. Et on va dire que souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés parce qu'à l'April, on connaît ça sur un de nos logiciels. Donc, c'est la question, comme tu le dis, c'est réécrire ou ne pas réécrire et de céder à la tentation, comme disait Oscar Wilde. Il faut y céder des fois ou pas, quoi, en tout cas. Et dans ton expérience, tu as souvent eu cette question-là, tu t'es souvent posé cette question-là, ou c'est juste récemment avec ce code-là?
Alors, dans le cas présent, le problème vient que c'était en plus la nouvelle version du site qui avait le problème. Donc, il y a déjà eu l'investissement pour refaire une nouvelle version. Donc là, c'est un peu problématique parce qu'on se dit, on a investi de l'argent et tout, c'est difficile de tout jeter. Ce que j'ai plutôt rencontré, c'est quand il y a une tentation de réécriture, on se dit, dans ce cas-là, on fait effectivement la nouvelle version du site. On reprend tout à zéro, on reprend pas uniquement le code finalement. Reprenons le contenu, reprenons la structure, reprenons les objectifs du site. Au fond, quand j'étais face à ce problème, c'est plutôt la position de dire reprenons tout à zéro et pas seulement la partie informatique.
D'accord. Écoute, merci Vincent. Donc c'était la chronique Jouons collectif de Vincent Calab, bénévole à l'April et dans d'autres structures. Mais vous allez avoir l'occasion de découvrir un peu plus Vincent. J'en parlerai tout à l'heure dans les annonces. Et on se retrouve sans doute le mois prochain.
Oui, avec plaisir.
On va passer au sujet suivant. Avec Vincent, on parlait juste à l'instant de création de nouvelles versions de sites web. Bah, ça tombe bien, parce que dans les actualités à venir pour l'April, il y a trois sites web. Un site web qui va être consacré aux transcriptions que fait l'équipe transcription, et surtout Marie-Odile Morandi, la géniale bénévole qui fait des transcriptions pour l'April. Il y aura un futur site web pour l'April qui va justement être fait dans un nouveau outil de gestion de site web et dont on va revoir l'architecture. Mais surtout, il va y avoir un site web dédié à l'émission Libre à vous. Donc si vous écoutez l'émission, si vous écoutez actuellement, c'est que vous l'écoutez, ou si vous la découvrez plus tard dans un podcast, n'hésitez pas à nous indiquer ce que vous souhaiteriez trouver sur ce futur site. Alors sur les références sur april.org et causecommune.fm, dans les pages consacrées à cette émission, ben, vous trouverez un lien pour faire des commentaires. Nous espérons mettre en ligne ce site au cours du premier trimestre 2020, donc assez rapidement. Dans les nouveautés 2020 pour Libre à vous, il y a la vidéo. Et notamment, nous allons essayer de mettre en place des petites interviews bonus en vidéo de 2-3 minutes des personnes que nous on invite. Et la première personne qui va se prêter à l'exercice, c'est justement Vincent Calam. Donc nous allons enregistrer tout à l'heure la vidéo, en lui posant voilà, 2-3 questions, et vous mettrons en ligne la vidéo sur le site de Cause Commune et le site de l'April. Alors dans les annonces plus classiques, il y a l'apéro parisien du Libre, donc le 15 janvier 2020, c'est au Piano Vache, 8 rue Laplace, dans le 5e arrondissement à Paris, c'est à 19h. Jeudi 16 janvier, il y a la soirée de contribution au Libre à la FPH, où Vincent a ses bureaux et contribue beaucoup au Libre. Donc c'est 38 rue Saint-Sabin, Paris 11e, donc c'est à partir de 19h. Le même soir, il y a la réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April, qui exceptionnellement aura lieu au local de l'April. Donc 44-46 rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement, avec l'accueil à partir de 18h30 ou 19h, je crois. En tout cas, les informations sont sur april.org. Nos amis marseillais du Cercle, Cercle d'entraide et réseaux coopératifs autour des logiciels libres, organisent leur assemblée générale samedi 18 janvier 2020 de 16h à 19h au foyer du peuple, qui se situe 50 rue Brandis à Marseille. C'est un foyer qui accueille pas mal d'événements. Nous y avons d'ailleurs fait un April Camp l'an dernier, et nous en ferons un nouveau sans doute l'an prochain. Donc n'hésitez pas à rejoindre nos amis du Cercle ce samedi pour leur assemblée générale. Tous les autres événements, évidemment, vous les trouverez sur l'agenda du Libre, donc agendadulibre.org. Alors, l'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Olivier Simon, Vincent Calam, Magali Garnero, Emmanuel Charpentier, mon collègue Étienne Gonu, qui non seulement a assuré le sujet long, mais la régie en même temps. Grande première, bravo Étienne. Merci également à Sylvain Kutzmann et à Olivier Grieco qui vont traiter le podcast avant sa mise en ligne. Vous trouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm, toutes les références utiles concernant l'émission du jour, et également des moyens de nous faire des retours pour vous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître Libre à vous, faites connaître la radio Cause Commune. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 janvier à 15h30. Notre sujet principal portera de nouveau sur les collectivités et le logiciel Libre, avec normalement les villes de Fontaine et la ville de Voisins-le-Bretonneux. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 janvier 2020. Et d'ici là, portez-vous bien.